Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal de midi, Sud Kivu, des foules de manifestants contre la MONUSCO ont été dispersées par des coups de feu ce matin à Uvira, autour du camp des casques bleus pakistanais de la MONUSCO à Kanvivira. Selon le maire adjoint de la ville, qui assure que pour l'instant un calme relatif est observé, mais la situation sécuritaire reste volatile à Kanvivira. Un acteur politique de Kalemie, Christian Kitungwa, dit que le gouvernement provincial du Tanganyika n'a pas exécuté les instructions du ministre de l'Intérieur. C'est en réaction aux incidents survenus hier mardi à l'Assemblée provinciale du Tanganyika. L'invité du journal et le directeur national du programme d'éradication de la drachycinclose, Dr Serge Nkoimbilo, conduit au Kasaï oriental une délégation de ce programme depuis le lundi dernier dans le but de vérifier l'existence de nouveaux cas de cette infection qui se transmet par la consommation d'eau contaminée. Bonjour à tous et à toutes au Sud Kivu. Manifestation anti-MONUSCO à Uvira. Des foules de manifestants ont été dispersées par des coups de feu tout autour du camp des casques bleus pakistanais de la MONUSCO à Kanvivira. Selon l'adjoint du maire de la ville, Kapenda Kifara Kakikiki, le commandant de la ville et la police nationale congolaise tentent de maîtriser la situation et encadrer la manifestation. Pour l'instant, un calme relatif est observé, mais la situation sécuritaire reste volatile à Kanvivira. Des détails dans ce reportage.
Quelques dizaines de manifestants persistent encore pour tenter de s'introduire dans les enceintes du camp des casques bleus, visant principalement les dépôts de vivres. Nombreux parmi eux se sont déjà retirés pendant les crépitements de balles. Les FARDC et la police ont quadrillé ces camps des Pakistanais et procèdent en ce moment au tir des sommations sporadiques tout autour et dans le quartier. L'adjoint du maire de la ville, Kapenda Kifara Kiki, dit se trouver sur place au lieu de manifestation avec le commandant du secteur opérationnel Sokolade des FARDC, le général de brigade Ramazan Fundi. L'autorité urbaine confirme que la pression de la foule a été atténuée. Aucun manifestant n'a pu s'introduire dans les enceintes du camp de la MONUSCO et aucun dégât majeur n'est à signaler pour l'instant. Tôt le matin, une barricade constituée de troncs d'arbres a été érigée sur la route menant vers la frontière du Burundi, non loin du mess des officiers de la MONUSCO. Des jeunes manifestants ont brûlé des pneus à l'entrée de ce mess appelé Jina Camp, ainsi qu'à l'entrée de l'autre camp des soldats de la paix, le deux camps se trouvant près de 500 mètres du quartier général de la MONUSCO. L'appel à ces manifestations anti-MONUSCO a été initié par quatre structures citoyennes. Mais jusque ce mercredi dans la matinée, le maire adjoint Kapenda Kifara interdisait catégoriquement ces manifestations, condamnant les initiateurs de se substituer à l'État congolais qui a signé des engagements avec la mission onusienne et qui doit décider de son départ. Si à travers la ville d'Uvira, on peut observer encore des attroupements des populations ici et là, dans la plaine de la Ruzizi à Sangue précisément, toutes les activités se sont déroulées comme dans l'accoutumée. La population de Sangue a suivi les mots d'ordre du chef de cité, l'appelant à vaquer à ses occupations.
Au nord Kivu, la tension est progressivement en baisse dans la ville de Goma. Au troisième jour, ce mercredi, des manifestations anti-MONUSCO. Dans la matinée, quelques manifestants ont placé des barricades sur certaines artères de la voirie et des émeutes ont été signalées à quelques endroits. Toutefois, les éléments des forces de sécurité s'efforcent de rétablir l'ordre. Des détails avec Blaise Ndongala.
Dans l'ouest de la ville, au quartier Ndosho, Kieshero, la vie semblait reprendre son cours normal depuis ce mercredi matin. Les barricades placées hier sont déjà dégagées et la circulation a déjà repris. Dans la partie est de la ville, en revanche, quelques agitations ont été rapportées ce matin sur l'axe Katindo-Centre-Ville, passant par les ronds-points Estigo, en prolongeant vers Majengo et Bouéné, plus au nord. Des manifestants, pour la plupart quelques motards, placés des barricades sur la chaussée. Mais les éléments de l'ordre, renforcés sous l'ordre de l'autorité provinciale, on vite dégager les passages et depuis 8 heures locales, la circulation est rétablie. Rappelons qu'après les pillages dans et autour des bases de la MONUSCO, des mesures ont été renforcées pour sécuriser les locaux ainsi que la sécurité des personnels onusiens. Selon plusieurs sources, les agitations constatées ces mercredis mélangeant les revendications anti-MONUSCO et la vengeance de quelques motards et jeunes de tous bords qui accusent la MONUSCO d'être responsable des conséquences humaines des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre lundi et hier mardi. Ces affrontements qui ont causé environ 8 morts et une soixantaine de blessés, selon plusieurs sources.
Au Nord Kivu, la situation sécuritaire reste précaire ce mercredi dans la ville de Butembo après une journée d'hier mardi très agitée par des manifestations contre la MONUSCO. Toutefois, les activités socio-économiques sont restées paralysées cet avant-midi. Des précisions avec Folke Konso.
Oui, bien qu'un calme apparent règne depuis tôt ce mercredi sur l'ensemble de la ville, des manifestants ont érigé des barricades dans certains endroits. C'est le cas à l'entrée sud de Butembo. Ils ont également allumé le feu sur certains acteurs de la ville. Certains groupes de jeunes tentent même de s'organiser en vain pour se rendre sur les sites où se trouvent les installations de la MONUSCO. Les dispositifs sécuritaires sont renforcés dans le coin chaud de la ville et même sur les installations de la mission onusienne. Boutiques, magasins, officines pharmaceutiques et autres maisons de commerce sont restées fermées. Toutefois, aucun tir n'a été entendu dans la ville. Depuis ce matin, le commandant ville de la police a effectué une ronde au centre commercial cet avant-midi pour sensibiliser les commerçants à ouvrir leurs portes. Mais ces derniers, regroupés devant leur maison, des commerces restés sceptiques. Le supérieur principal, Polongo Madine Toto, condamne et met en garde certains manifestants qui continuent de repérer les résidences du personnel de la MONUSCO pour les pillages et la destruction. Il indique que cette pratique freine le développement de la ville et interpelle les uns et les autres à la prise de conscience. Pour rappel, les manifestations anti-MONUSCO d'hier mardi à Butembo ont fait des morts et des blessés, tant du côté des manifestants que du côté de la MONUSCO. La MONUSCO qui déplore la mort de deux policiers des Nations Unies et d'un casque bleu. Et notre casque bleu a été blessé.
Et toujours à Ouvira, au sud Kivu, les manifestations anti-MONUSCO viennent de basculer dans les pleurs au quartier Kanvivira. Quatre civils sont morts électrocutés par un câble à haute tension qui s'est détaché du poteau après avoir été touché par une balle perdue. L'incident s'est produit vers midi alors que les manifestants anti-MONUSCO jetaient des pierres dans les enceintes du camp des casques bleus. Certains parmi les jeunes manipulaient les câbles tombés par terre lorsqu'ils ont été touchés par l'électrocution et sont morts sur le champ. L'ASNEL vient de couper le courant électrique sur cette ligne à haute tension près du marché à Kanvivira, mais les corps de victimes, deux adultes et deux mineurs, gisent encore au sol en attendant leur levée par les instances compétentes. À Beni, pendant ce temps, un calme apparent a été observé ce matin. Bien qu'un dispositif sécuritaire important soit signalé dans les points chauds de la ville, quelques barricades ont été érigées par des jeunes. Toutefois, les éléments de la police sont déployés dans la ville pour maintenir l'ordre public. Dans l'entretemps, le parti politique RCD-KML condamne les actes de violence contre les sites de la MONUSCO et en appelle à leur cessation immédiate. Dans un communiqué publié hier mardi à Beni, le parti d'Antipas Mboussa Nyamwisi regrette que ces violences aient causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels énormes dans les villes de Goma et de Butembo au Nord Kivu. Le RCD-KML rappelle à la population de l'Est que la mission de restaurer la paix et la sécurité incombe au gouvernement et non à la MONUSCO. En Ituri, nous devons rester très vigilants et ne pas tomber au jeu de l'ennemi. Déclaration ce mercredi à Bounia de la coordination de société civile Force Vive de l'Ituri face aux manifestations contre la MONUSCO enregistrées dans les villes de Goma, de Butembo, au Nord Kivu. Selon son coordonnateur Dédoné Lossa, les problèmes sécuritaires de l'Ituri sont perçus différemment dans cette province que partout ailleurs au pays. Il appelle la population au calme et demande à l'État congolais d'organiser une table ronde où prendront part les forces vives en vue d'évaluer les contrats qui les lient avec la MONUSCO. Les propos de Dédoné Lossa sont recueillis par Martial Kizabia Mungu.
La MONUSCO est venue sur l'invitation de l'État congolais. Et nous devons orienter nos actions vers l'État congolais qui l'a invité. Si nous nous attaquons, par exemple, à la MONUSCO, à des installations de MONUSCO, je crois que c'est s'attaquer soi-même. Toutes ces maisons qui sont habitées ici par les agents de la MONUSCO, mais ce sont les maisons des fils, des filles et des l'Ituri, des patriotes congolais. On n'a pas besoin de saccager nos propres biens pour rien. Nous avons des actions dans ce sens-là à mener vers l'État congolais qui a invité la MONUSCO. Nous devons d'ailleurs demander de cette occasion à l'État congolais d'organiser rapidement une table ronde où la MONUSCO, l'État congolais et la société civile se mettent ensemble afin d'évaluer leur contrat. Parce que c'est ce qui peut aider le pays. Mais la violence, les gens sont blessés, nous sommes en train de décrier cela, les gens sont blessés, les gens sont morts. Et qui est le grand perdant? C'est encore le peuple congolais. Donc à Ituri, nous devons être très vigilants de ne pas tomber dans les jeux politiciens.
En bref, pour clore ce chapitre en territoire de Rutshuru, un accrochage a été signalé tôt ce mercredi entre le FARDC et le M23 au village Kabingo, localité Mungo dans le groupement Busanza. Des sources dans la région indiquent qu'une patrouille des FARDC aurait croisé des éléments du M23 vers 5h du matin en direction de Moussezero. Ce dernier probablement cherchait à s'approvisionner dans les champs des paysans. Un échange de tirs a été entendu, mais la situation s'est calmée après quelques heures. Rappelons qu'une grande partie de Busanza est occupée par ces rebelles et abandonnée par la population. Le porte-parole des opérations Sokola 2 affirme que les rebelles du M23 ont tenté d'infiltrer leur zone et piller les récoltes de la population, mais ils ont été empêchés. Réagissant aux incidents survenus hier mardi à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Christian Kitungwa, acteur politique de Kalemie, dit que le gouvernement provincial du Tanganyika n'a pas exécuté les instructions du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. De son côté, le ministre de l'Intérieur et du Tanganyika annonce que la police a fait son travail pour rétablir l'ordre. Paul Mounanga pour les détails.
Dans ce télégramme adressé au bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika le 23 juillet dernier, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur autorise aux membres de ses bureaux de regagner la ville de Kalemie. Le ministre de l'Intérieur enjoint Madame le gouverneur du Tanganyika et le commissaire provincial de la police d'assurer la sécurité des membres du bureau et celle du siège de l'Assemblée provinciale. L'acteur politique du Tanganyika, Christian Kitungwa, déplore la non-application de la décision du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur.
Il y a des blessés, il y a eu des tirs. Et vous allez voir que la police n'a pas respecté les instructions du VPM, qui est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur.
D'après le ministre de l'Intérieur du Tanganyika, la police a pris toutes les dispositions y afférentes sur le terrain et a rétabli l'ordre. Mais il condamne les comportements des députés qui ont vandalisé le bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Pierre Lumbe Kazimoto.
Il y a 3 jours que nous avons reçu le télégramme de son Excellence Monsieur le VPM, ministre national de l'Intérieur. Il nous a instruit de sécuriser l'ancien bureau de Madame Virginie. Eh bien, dans le Tanganyika, vous devriez savoir que nous avons un problème d'effectifs des policiers. Et les policiers ont pris leur disposition sur le terrain.
Kalemie, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, les activités ecclésiastiques de la paroisse centrale de l'église évangélique Libre d'Afrique et Elda de Mbujimaï sont suspendues par le gouvernement provincial jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure conservatoire a été prise par le ministre provincial de la Justice, Sirote du gouverneur de province. C'est pour mettre fin au conflit de leadership dans les chefs des dirigeants de cette paroisse. Quelques adeptes de cette paroisse ont même été interpellés au cours d'une altercation avec les éléments de la police dans la soirée de ce mardi, hier mardi. Des explications avec Esther Ndalafina.
Selon certains adeptes, tout a commencé lorsque Kabeya Mubikai, représentant légal de cette communauté, a été désavoué par le comité de gestion. Ce dernier l'accuse de plusieurs griefs, dont les détournements des fonds. Cette situation n'a pas été digérée par d'autres adeptes. C'est ainsi que le dimanche dernier, ils l'ont escorté jusqu'au temple pour faire le culte dominical. Des affrontements ont opposé les adeptes qui soutiennent le représentant déchu et ceux qui approuvent la décision du comité directeur, actuellement dirigé par Chonza Chonza. Vu l'emplacement de cette paroisse, les troubles créés par les adeptes ne tardent pas à perturber la circulation des personnes et des véhicules sur l'avenue Inga. Des sources du gouvernorat des provinces indiquent que les deux camps ont été invités pour être entendus le même dimanche par l'autorité provinciale. La décision de fermeture jusqu'à nouvel ordre est tombée ce mardi, étant donné que les uns et les autres n'ont pas obtempéré aux ordres des autorités provinciales. Un dispositif sécuritaire est actuellement observé pour empêcher les deux camps d'accéder à la paroisse. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Au Kwilu, 4 personnes ont été blessées et une autre est décédée après avoir été touchée par balle hier mardi dans le village Yolo Banzadi, secteur de Mateko, en territoire d'Idiofa. C'est là à la suite des affrontements causés par un vieux conflit foncier entre deux communautés dans ce coin, notamment les Balori et les Banzadi. Les coordonnateurs provinciaux de la Ligue congolaise pour la défense, la promotion et la vulgarisation des lois et droits humains attribuent cette situation aux éléments des FARDC déployés sur les lieux pour des arrestations. Pour Maître Valentin Balanda, ces actes constituent une violation des droits de l'homme. Il demande que les autorités répondent de leurs actes devant la loi. Maître Valentin Balanda l'a dit à Irène Boma.
C'est un conflit entre deux communautés. Il y a une partie qui est allée solliciter les militaires à l'auditorat. Alors, arrivé sur place, les militaires, suite à une sorte de résistance, ont commencé à tirer des balles réelles. Les balles ont atteint 5 personnes. Sur les 5, quelques temps après, il y a une qui est décédée suite aux blessures. Il y a des violations des droits de l'homme. Les militaires, même s'il y a eu de résistance, ne pouvaient pas tirer directement sur les personnes. Il y a toute une procédure pour en matière d'arrestation. La vie humaine est sacrée. C'est ça que nous appelons exécution extrajudiciaire. Il faut que les autorités au niveau provincial et national soient au courant. Parce que c'est un conflit entre deux communautés. Alors lorsque les autorités n'interviennent pas, ça risque de devenir comme le dossier de Yumbi. Yumbi, ça a commencé aussi comme ça et après la situation est très compliquée là. Alors même là, ce n'est qu'un début. On ne sait pas ce qui peut arriver dans les jours à venir. Alors l'autorité doit intervenir pour mettre de l'ordre. Pourquoi pas sanctionner les auteurs de ces actes-là?
Et après les vives tensions observées dimanche et lundi dernier à la cité de Kwamout et dans plusieurs villages du territoire du même nom où des maisons ont été incendiées, c'est hier mardi qu'un calme total est revenu. Ces troubles avaient été dus aux affrontements entre communautés autochtones Teke et les non-originaires Yaka à la suite d'un conflit interethnique. L'administrateur de ce territoire, qui l'est dit, indique que les populations vaquent librement à leurs occupations grâce à l'intervention de la police et des militaires de FARDC, puis des forces navales qui ont été dépêchées sur place.
Actualité internationale.
Référendum en Tunisie, la nouvelle constitution controversée, adoptée à plus de 94%. L'instance électorale a annoncé hier soir les résultats du référendum sur la nouvelle constitution de lundi dernier. Ce texte, porté par le président Kais Saied, accorde de larges pouvoirs au chef de l'État. Selon les résultats officiels préliminaires annoncés par l'Isier, le oui l'emporte à une écrasante majorité, mais avec une faible participation dénoncée par l'opposition.
L'invité.
L'invité de ce journal est le directeur national du programme d'éradication de la drinking cause, Dr Serge Koimbilo Kondio-Kassai, une délégation de ce programme depuis le lundi dernier dans le but de vérifier l'existence de nouveaux cas de cette infection qui se transmet par la consommation d'eau contaminée. Dr Serge Koimbilo s'entretient avec Esther Dalafina.
Bonjour, docteur Serge. C'est quoi la dranquiculose?
Oui, la dranquiculose, c'est une maladie parasitaire, une filariose, qu'on attrape par l'ingestion ou la consommation de l'eau qui est contaminée par des cyclopes, par cet agent causant la dranquiculose qui s'appelle dranquiculose meninensis. Si vous consommez cette eau-là, au fil de 9 à 12 mois, vous allez développer en vous un ver adulte qui a à peu près la morphologie d'un spaghetti, donc blanc nacré, un peu effilé, qui peut atteindre à peu près 1 mètre de longueur, qui s'est localise dans le corps, dans n'importe quelle partie, mais les parties préférentielles, c'est plus au niveau du thorax, les seins, au niveau de la sphère génitale, dans la partie scrotale pour les hommes, les grandes lèvres ou la vulve chez les femmes, surtout au membre inférieur. Ça se présente sous forme de lésions cutanées, comme des bulles ou des flectènes, comme quelqu'un qui venait de se brûler, et ça donne des douleurs atroces sous forme de déjections, des chaleurs. Ça mène le patient à un handicap physique et ça réduit la main-d'œuvre et la productivité d'un territoire géographique du pays. D'ailleurs, quand on parle de dranquiculose, donc on fait allusion au dragon, cet animal mythologique qui crache du feu. C'est à peu près ça l'origine de ces mots, la dranquiculose. Il faut aussi le savoir que c'est une maladie qui a sévi dans le monde, mais à peu près plus de 199 pays et territoires ont été déjà certifiés indemnes de cette pathologie. Actuellement, il ne reste que 7 pays. Dans les 7 en question, il y a 5 qui sont endémiques. Je cite le Mali, l'Éthiopie, le Tchad, le Soudan du Sud, l'Angola, et 2 qui sont en phase de préservation, à savoir le Soudan et nous la RDC. Cette maladie existait à l'époque coloniale dans notre pays, on avait étiqueté à peu près 518 cas, à peu près 319 cas s'est retrouvé dans l'espace Kasaï.
Et qu'est-ce qui explique votre présence ici en Bujima-Kasaï oriental?
Notre présence s'explique dans les faits historiques dont nous avons dit qu'à l'époque il y avait plus de 319 cas sur les 518 qui étaient étiquetés dans notre pays, qui avaient atteint même 7 blancs et le reste étaient des indigents. Nous sommes venus pour voir est-ce que, à part ces cas qui ont été étiquetés, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux aussi cas, parce que c'était presque le bastion de règne de cette pathologie. Mais de l'autre côté encore, c'était pour vérifier tout ce que nous avons mis comme évidence dans le rapport pays, pour dire que après des recherches depuis 1960, après l'accession de notre pays à l'indépendance, et depuis 2002 par la création de ces programmes nationaux d'éradication de la dranquiculose, il n'y a aucun cas qui a été détecté. Parce qu'il y avait aussi des rumeurs ça et là, il y a même des prélèvements de certaines structures biologiques qui qualifiaient des vers, que nous avons envoyé au CDC Atlanta aux États-Unis d'Amérique, mais ils n'ont pas certifié que c'était le ver de Guinée. Donc ils sont venus maintenant pour demander si c'est réellement ils connaissent cette maladie, est-ce qu'ils ont déjà vu des cas où ils connaissent les systèmes de récompense monétaire, parce qu'actuellement si la personne arrive à détecter un cas, il y a toute une cagnotte de $1,000 qu'on met en place, répartie en quatre groupes, $250 pour la personne qui est concernée par cette maladie, $250 pour la personne qui a donné l'information à la structure sanitaire ou à la zone de santé, $250 la personne qui va extraire les vers, parce que les traitements, c'est mal l'extraction du ver. Il faut l'ITA faire sortir ces vers totalement, qui ne se coupe pas. Quand bien même il est long, il peut atteindre un mètre. Et les $250 autres, c'est pour la zone de santé où le cas a été retrouvé.
Avez-vous amené du matériel pour la détection?
La détection, c'est plus la définition des cas, la sensibilisation de la population, parce que c'est une maladie qui s'identifie vraiment dans des villages. Pour nous, l'unité fondamentale, c'est le village. Il faut que la population connaisse la définition des cas, connaisse l'existence de cette maladie, et au moindre signe, ils peuvent alerter les centres les plus proches. Donc nous parlons, nous sensibilisons, nous donnons des images et des messages clés.
Est-ce que les infirmiers que nous avons ici ont été formés pour faire sortir ce ver, pour qu'il sorte tout entier sans être découpé?
Oui, merci, c'est une bonne question. Nous avons toujours l'habitude d'envoyer des gens en mission pour former ou briefer les équipes cadres au niveau des divisions provinciales de santé, au niveau des zones de santé, au niveau des aires de santé, les centres de santé de référence. Nous estimons qu'ils ont bien suivi ces briefings et ils sont en mesure de faire extraire facilement ces vers. C'est aussi donné à toute personne, parce que vous savez, même à l'époque où il n'y avait pas encore une médecine structurée, mais dans nos villages, dans nos sociétés, il y avait quand même des gens qui soignaient, les matrones qui dirigeaient les accouchements. Donc toute personne avait pu être formée pour extraire. C'est à peu près comme les chics. Le faire extraire, ça ne demande pas une formation spécifique, mais enrouler progressivement sur une tige qui peut être le cure-dent, une tige coton, ainsi de suite, enrouler progressivement et lentement jusqu'à extraire complètement le ver.
Docteur Serge, je vous remercie.
Merci infiniment, Madame Esther Delafine.